absente est un état assez particulier. C'est vrai que je m'adresse à des personnes qui ont déjà connu cet état et d'autres pas. Voilà. C'est comme ça que nous sommes fabriqués. Mais être enceinte, c'est ne plus vraiment être seule. C'est vivre le miracle de la formation d'un enfant en soi. Et puis, un jour, autour du quatrième mois, ça peut être avant ou après, on sent quelque chose bouger. Et évidemment, c'est une sensation difficile à décrire. Un autre être que soi-même vit en soi et a sa propre existence. Et mène sa propre existence, on pourrait dire. C'est une sacrée responsabilité. Je ne vais pas m'étendre sur le fait que quand une jeune femme ne prend plus d'alcool dans les fêtes de famille, on peut se poser des questions. Mais en tout cas, il faut faire attention quand on est conscient, voilà, qu'on n'est plus tout seul dans notre corps. Et puis au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien, les mouvements se font plus amples. Et du coup, les auteurs des textes bibliques se sont servis de cela pour y mettre un sens. Alors on a entendu la pauvre Rebecca qui porte des jumeaux et les jumeaux se battent dans son ventre. Ouais, la pauvre, elle se dit déjà qu'elle est mauvaise mère. C'est peu dire. Déjà on se pose mille questions quand le bébé est là en se disant est-ce qu'on est vraiment une bonne mère ou pas. Mais alors là, même dans le ventre, elle se dit à quoi suis-je bonne? Et puis, quand l'enfant d'Élisabeth bouge en elle, eh bien, elle l'interprète comme un bond de joie. Alors, honnêtement, c'est quand même un peu difficile d'interpréter les mouvements d'un bébé dans le ventre. On peut, à la limite, percevoir quand il est calme ou quand il a besoin de bouger, de faire la java. Juste au moment où la maman a envie de dormir, là, il fait bien la java. Ça, on sait, on connaît. Mais le reste n'est qu'interprétation. Et du coup, les auteurs donne un sens à ces mouvements pour parler de ce qui va se passer plus tard, après leur naissance, dans leur vie d'adulte. Jacob et Ésaü vont se disputer. Ils se disputeront en particulier le droit d'aînesse. Donc dès le ventre de la... Ils se disent, voilà, qui c'est le premier? Déjà, quand il sort, il y en a un qui tient le talon de l'autre. Enfin, ils se disputent déjà. Et puis, il y a un moment où Jacob devra fuir Ésaü, parce que Jacob a fait une mauvaise blague à Ésaü en lui prenant la bénédiction du droit d'aînesse. Ésaü est furieux et veut le tuer. Par contre, Jean-Baptiste sera le prophète qui va révéler Jésus. Et j'ai trouvé intéressant que dans un cas, il y a toujours la confrontation et la compétition, quelque chose qu'on connaît malheureusement très bien. Et dans l'autre cas, eh bien, il va y avoir une amitié entre les deux hommes qui va dépasser largement l'humain. Donc Jean-Baptiste va révéler Jésus, et du coup il fait le prophète dès le ventre de sa mère. Il bondit quand Jésus entre dans le ventre de Marie. Marie et Élisabeth sont deux femmes enceintes qui portent chacune un enfant unique et particulier, et Élisabeth en perçoit l'importance quand, sous l'action du Saint-Esprit, elle exprime sa reconnaissance et sa joie. On pourrait dire que les deux femmes représentent les deux alliances qui se rencontrent et qui se relaient. La première alliance, représentée par notre Ancien Testament, représente le pacte que Dieu fait avec son peuple et à qui il donne la loi par Moïse. Et Jean-Baptiste sera la figure type du prophète de l'Ancien Testament, de la première alliance. Jean-Baptiste va reconnaître Jésus comme celui qui doit venir. Et puis la nouvelle alliance, eh bien, sera réalisée par Jésus dans une histoire d'amour que Dieu élargit au monde entier. Alors la joie d'Élisabeth marque un moment particulier. Avant que les deux enfants naissent, avant qu'ils deviennent adultes, avant qu'ils subissent chacun des épreuves qui les mèneront à une mort précoce, la joie d'Élisabeth ouvre un temps nouveau, un temps qui va déborder ce temps humain, un temps qui apporte au monde une espérance qui ne s'arrêtera pas avec la mort, qui va déborder l'amour. Je me suis posé la question, est-ce que nous avons déjà vécu des moments qui nous paraissent uniques, des moments où on se dit, là, c'est un moment qui ne se reproduira plus jamais. Et parfois, c'est bon de se dire ça en soi-même. C'est bon parce qu'à ce moment-là, souvent, il y a une rencontre des temps, dans des lieux particuliers, mais ce temps de rencontre peut s'appeler le kairos, un mot grec pour dire un temps favorable. Le temps de Dieu et le temps de l'humain se rencontrent et se rejoignent, se rencontrent et s'ajustent. Alors là, quand on se rend compte de ça, c'est en effet un moment pour louer Dieu. La louange permet d'arrêter le temps et de lui donner ce sens de joie, de remerciement. Élisabeth dit, tu es bénie plus que toutes les femmes, et bénie aussi est ton enfant que tu portes. Oui, c'est un moment unique qui ne se reproduira plus. La louange peut s'exprimer par un psaume, par un hymne. Marie, dans le passage suivant, va donner ce qu'on appelle le cantique de Marie. On peut simplement chanter un cantique. Cela ancre la joie en nous et renforce notre foi en Dieu. Nous permet de traverser les épreuves. Souvent, la louange, on la met de côté. On n'y pense pas. Mais je suis étonnée de voir combien il y a des personnes qui louent le Seigneur, même en étant dans des épreuves. Et c'est très marquant, parce que ça nous ancre dans un autre que nous-mêmes. Alors, c'est bien dans la rencontre qu'il se passe quelque chose. Et la rencontre de Marie et Élisabeth préfigure peut-être les rencontres déterminantes que leurs enfants vont vivre. Déterminantes pour eux et les personnes rencontrées. Jean-Baptiste, au moment de du baptême qu'il propose, appelle à la conversion, au changement de vie. Et Jésus transforme la vie de ceux qu'il va rencontrer, de ceux et celles qu'il va rencontrer. Avec Jésus, la rencontre est le lieu du miracle. Un miracle qui peut se décliner de plusieurs manières, bien sûr par des guérisons, mais aussi par un accueil, pensons à l'accueil que Jésus fait des enfants, ou bien par un regard, pensons au regard que Jésus a fait sur la Samaritaine. Il n'aurait pas dû être là, il n'aurait pas dû lui parler, et pourtant il le regarde et il lui parle. Le miracle a lieu pendant la rencontre. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu et avec cette distance possible que nous permet le numérique, mais on connaît aussi le prix d'une vraie rencontre en présence de ce qui se passe justement par les regards, par les sensations, par une communion et parfois une détestation aussi. Quand on rencontre des gens, ça ne se passe pas toujours bien. On peut avoir des moments extraordinaires ou on peut avoir des moments angoissants. Et c'est pour ça que souvent, on a peur parfois. Mais cela dépend de la personne que je vais rencontrer. Si je me réjouis, par exemple, de rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu, un futur conjoint de mes enfants, par exemple, ou bien s'il y a quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, que je le revois enfin, ça aussi, c'est un grand moment de joie. Parfois, je peux attendre quelque chose et parfois, je peux être déçue. Ça arrive. Et puis, quand on sait qu'on doit rencontrer quelqu'un avec qui, justement, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'harmonie, eh bien, ça peut me paralyser. Je peux en faire des rêves la nuit, je peux me faire des scénarios, imaginer des choses pour essayer de maîtriser quelque chose. Quand on se fait des scénarios en boucle, hein, quand on fantasme la nuit et qu'on n'arrive pas à dormir, c'est qu'on a ce besoin de maîtriser quelque chose. On n'a pas envie d'être blessé, on n'a pas envie que l'autre nous agresse. Alors parfois, il y a des relations dangereuses dont il faut se protéger. Et ça, c'est important de les discerner. Mais ce que j'aborde ce matin, c'est plutôt les relations de tous les jours, qui ne sont pas problématiques, au point de vraiment éviter, mais il peut y avoir au travail, il peut y avoir dans la famille des personnes où on se blesse et puis parfois une explication franche peut suffire à dénouer le nœud. Mais il est facile de fuir. Et bien souvent, c'est la fuite qui est quand même un comportement très général. On a discuté avec le groupe de jeunes samedi il y a une semaine, je crois, 8 jours, sur la médiation du numérique. Comment par les réseaux sociaux, alors je ne sais plus les exemples qu'on avait pris, mais comment par les réseaux sociaux on peut lancer des choses sans aucun, avec violence, sans aucune censure, sans aucune retenue, et combien ça fait du mal. Alors on le voit quand de temps en temps il y a un procès qui sort, parce que, en fait, voilà, on discutait, on se disait, mais les jeunes ne se rendent pas compte. Ils écrivent leur phrase et puis ils appuient sur clic et ça part. Et après, ils sont confrontés à des vraies relations quand ils sont, je donne un exemple extrême, dans les tribunaux. Et on leur dit, mais est-ce que tu te rends compte que l'autre, voilà, c'est un être humain. Qu'est-ce que tu voulais faire en disant cette parole qui a une portée bien plus grande que ce que tu imagines? Donc on a eu vraiment une belle discussion. Et souvent, il y a une attitude qui dit, ben, de toute façon, je m'enfuis et surtout, je n'y touche pas. Je mets le couvercle sur la casserole et puis je mets la casserole bien, bien, bien loin. Mais la casserole, elle est toujours en moi. Et on voit même l'exemple d'Ésaü et Jacob, du début de notre histoire. Ésaü et Jacob, Jacob, il va faire ça, il va mettre le couvercle sur la casserole, il va se dire, non, c'est tranquille, maintenant, j'y pense plus. Et donc, comme je n'y pense plus, ça n'existe plus. Mais quand Jacob doit revenir chez lui, après 20 ans, où il a eu deux femmes, des enfants, du bétail, etc., ben, en face, il y a Ésaü qui est toujours là. Et il va falloir qu'il retrouve Ésaü. Donc je vous invite à lire la suite dans la Genèse pour savoir comment ça va se passer. En tout cas, Jésus vient nous dire une chose fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, justement. Jésus, lui, n'a pas vécu que des rencontres agréables. Il a sans doute vécu des rencontres qu'il voulait oublier dès le premier jour. Combien de fois les responsables religieux ont voulu lui tendre des pièges? Des gens à Nazareth, dès le chapitre 4 de l'évangile de Luc, veulent même le jeter au bas de la colline, tellement ses propos dérangent. Et Jésus n'a pas eu beaucoup de répit entre ceux qui lui réclamaient des guérisons, et puis ceux qui le guettent, pour savoir à quel moment il enfreint la loi, notamment le sabbat. Alors, ce que j'aime beaucoup dans les évangiles, c'est de regarder Jésus, de le regarder dans son comportement. Il reste toujours calme, sauf quand il s'énerve avec les marchands du temple, parce que là, on touche à ce qui concerne Dieu lui-même. Et là, en effet, il n'y a plus de dialogue, et mais vous faites de ma maison, de la maison de Dieu, une caverne de brigands. Mais à chaque fois dans les dialogues, quand on veut lui tendre un piège, eh bien, il répond. Il ne se défile pas, mais il répond. Et en fait, on peut se poser la question, d'où vient ce calme? Je pense qu'il faut revenir à son baptême, justement, fait par Jean-Baptiste, où il a entendu cette voix, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et cet amour, cette déclaration d'amour de Dieu, c'est un ancrage parfait pour rester les pieds sur terre, la tête accrochée au ciel et être en lien avec les autres. Rester ancré en Dieu jusqu'au bout sera sa force. Il n'y a aucune recette toute faite avec le Christ. Ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, il n'y a pas de recette toute faite. Jésus, à chaque rencontre, il est différent. Il n'a pas la même parole, il n'a pas le même geste. Il y a plusieurs aveugles qui vont être guéris, ils ne seront jamais guéris de la même manière. Alors, eh ben c'est du vivant. La rencontre est unique. Et pour nous aussi, la rencontre est unique avec l'autre. Et du coup, eh bien, on ne peut pas essayer de tout maîtriser et de tout prévoir. Nous avons à nous ouvrir, et bien sûr, il y a un risque. Bien sûr, quand on s'ouvre, on a peur d'être blessé. Mais c'est... voilà, le Christ nous dit, il faut s'ouvrir. Parce qu'il y a des surprises. C'est nos amis suisses qui disent, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors si j'arrive moi-même à m'ancrer dans la joie de mon baptême, Dans cette joie d'être aimé inconditionnellement, cela peut calmer mes peurs et mes angoisses, m'aider à réfléchir autrement, d'être renouvelé, comme le dit l'apôtre Paul, dans mon intelligence. Réfléchir autrement. Et du coup, je peux présenter à l'autre un autre visage. Il y a une expression qui dit, mais je ne me souviens plus très bien, si on veut le changement, il faut aussi commencer par soi-même. Le changement peut commencer par soi-même. Et surtout, ce que la fête de Noël vient nous dire, c'est que si je fais de la place au Christ, au cœur de la rencontre, n'est-ce pas cela qu'il me sauve ? Qui me sauve ? Je suis sauvée de mes propres images, de mes propres a priori, et je peux laisser Jésus agir en moi et en nous. Dans la rencontre, on est deux, par son esprit. Si je laisse son regard se poser sur moi et sur l'autre, alors peut-être qu'il me sera inspiré une parole, un geste, une attitude que je n'aurais jamais imaginée, mais je peux me laisser agir par l'Esprit de Dieu. Et puis parfois on rate, on n'ose pas. Et bien c'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est que cette naissance de Jésus nous dit, il y a toujours un commencement et un recommencement possible. L'important, c'est de faire de nouveau confiance dans ce regard du Christ. Alors, dans quelques jours, eh bien, dans une petite semaine, nous allons fêter Noël. Dans nos rassemblements familiaux ou amicaux, peut-être que nous vivrons des tensions. Il ne faut pas se le cacher. Des frictions, il y a parfois des vieux schémas familiaux qui apparaissent. Alors, pensons à faire une place en nous, à cet esprit du Christ, à l'esprit de Dieu, parce que c'est cela aussi fêter Noël. C'est pas uniquement venir au culte, c'est faire en sorte que le Christ soit en nous. Pour que même quand tout ne va pas comme on l'espère, même quand ça ne tourne pas toujours comme on voudrait, Jésus a une puissance de transformation étonnante à laquelle on peut faire confiance. On peut l'appeler au milieu de nous. Alors oui, dans nos relations, pensons à sa présence de paix et de joie pour que dans le dialogue, nous ne soyons plus deux, mais trois. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, vous assure de sa présence au cœur de la fête, mais aussi tous les jours de votre vie. C'est lui, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.